Des anthropologues en forêt pensaient le lien entre humains et non-humains. Au mois de septembre, s'est tenu un parlement de la Loire, lors duquel un collectif a réfléchi à la possibilité de reconnaître au fleuve une personnalité juridique afin de mieux le protéger. Cet exemple met en lumière l'importance de penser à la fois la nature et les liens que nous tissons avec elle, car les non-humains restent largement impensés dans le droit et commencent à peine à être pris au sérieux dans les sciences humaines et sociales. Pourtant, comme l'écrivent le philosophe Olivier Thiry et l'anthropologue Sophie Houdard dans leur livre paru à La Découverte, tous les divers non-humains comptent, importent pour les humains, et pas de manière cosmétique, les relations que nous entretenons avec eux sont un peu ce que nous sommes. Mais comment mener une recherche sur des relations qui ne passent pas par le langage humain ? Comment comprendre la nature du lien que nous tissons avec les animaux, les végétaux, les esprits ou les lieux d'une forêt ? C'est précisément à ce défi méthodologique que Marion Picard et Cédric Audouan se confrontent dans leur recherche doctorale en anthropologie. Ils sont tous deux au laboratoire d'anthropologie sociale de l'Université de Liège. Marion Picard, bonjour.
Bonjour.
Tu travailles au sein d'une école en forêt en Suisse romande et tu examines comment les enfants développent un attachement interspécifique à travers leurs interactions quotidiennes avec les insectes, les champignons, les animaux et les végétaux. Cédric Audouan, bonjour.
Bonjour.
Tu travailles, quant à toi, auprès des Kassois de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où tu étudies les pratiques oniriques comme mode sensible d'habiter la forêt tropicale et de négocier une place parmi ses multiples résidents, humains, animaux, végétaux ou encore esprits. Comment en êtes-vous tous deux venus à vous intéresser aux relations interspécifiques, c'est-à-dire aux interactions entre humains et ce qu'on considère comme non-humain ? Marion, pour commencer.
Oui, l'important, c'est un arbre. Ah, au-dessus, il n'y a pas une fleur blanche.
Alors moi je me suis intéressée à cette question, ça date pas d'hier. Je pense que j'ai un peu cette fibre écologiste qui m'a accompagnée depuis l'enfance, quoi. J'ai toujours été très sensible aux arbres, aux animaux, j'ai jamais compris pourquoi on coupait des arbres. J'ai des souvenirs comme ça de quand j'étais gamine, où on coupait les arbres de mon jardin, parce qu'ils étaient malades, hein, pour des raisons tout à fait légitimes. Mais moi, j'ai jamais compris... Pourquoi on faisait passer toujours l'humain ? Genre, par exemple, on avait un arbre super grand dans la maison qui menaçait de tomber sur la maison du voisin. Et pour moi, c'était pas une raison suffisante, en fait, pour couper cet arbre que j'adorais. Avec qui, enfin, je sais pas si à cette époque-là, j'avais déjà créé un lien avec cet arbre spécifiquement, mais... En tout cas, voilà, c'est assez vieux. Et puis, en fait, j'ai été très vite marquée par la crise écologique, enfin, depuis l'adolescence, je dirais. Et mes premiers terrains, ils ont été marqués par ça, où... Justement, avec toute cette question d'anthropologie de la nature, où ça me parlait vachement dans mon côté sensible, dans mon côté écologiste. Et très vite, je me suis engagée. J'ai commencé à m'engager à faire des choses, à essayer de changer les choses dans notre système sociétal qui détruit largement la nature, quoi. Et du coup, ça vient de tout ça.
Quant à toi, Cédric, peut-être, pourquoi à travers les rêves ?
En ce qui me concerne, je pense que je pourrais peut-être me qualifier comme étant membre d'une génération un peu... déraciné dans la mesure où je ne connais pas bien mon histoire, je ne connais pas bien l'histoire de ma famille, l'histoire du lieu où j'habite, de la Belgique. Compte tenu du milieu ultra-urbanisé qu'est la Belgique, j'ai souvent eu l'impression de me sentir un peu déconnecté de mon environnement, avoir beaucoup de mal à créer des liens justement avec tous ces êtres qui m'entourent. Et donc j'ai été très fasciné dès le départ par la manière dont les gens ici et ailleurs font preuve de créativité sociale pour précisément... maintenir et créer des liens qui leur permettent de se sentir pleinement présents et en présence. Et je crois que c'est donc un élément, moi, qui m'a tout de suite attiré dans les relations entre humains et, entre guillemets, non-humains. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir poursuivre l'anthropologie.
On va parler de cette catégorie de non-humains. Marion, je crois que toi, tu as fait le choix de parler d'autres qu'humains. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Dans tout ce qui est anthropologie de la nature, il y a eu cette mouvance au début avec Philippe Descola où j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'il ne parle pas vraiment de non-humain directement. Je crois que c'est plutôt Bruno Latour qui avait inventé ce terme-là. Et en fait, dans ce que j'ai compris au niveau... Quand on parle de non-humain, on regroupe tous les non-humains. Ce n'est pas forcément l'ensemble du vivant qui est maintenu, mais ça peut être aussi les objets, ça peut être une porte, ça peut être des infrastructures, ça peut être... d'autres planètes. Enfin, c'est vraiment un ensemble qui regroupe absolument la totalité de l'univers, sauf l'humain. Au début, j'avais choisi de parler autre qu'humain, mais je trouvais que ça ne suffisait pas à montrer ce que je voulais montrer. Et du coup, j'ai choisi, là, dans ma thèse, je travaille sur les altérités vivantes. Donc, avec ce terme-là, en fait, j'essaye de montrer que c'est autre chose que l'être humain, mais que c'est à la fois vivant. Et du coup, là-dedans, ça me permet de rassembler les insectes, les champignons, les animaux, enfin les autres mammifères, les végétaux et tout un ensemble, mais du coup, qui est vraiment contenu au vivant.
Quant à toi, Cédric, comment est-ce que tu mobilises ces catégories ?
Alors, la toute première fois, quand j'ai entendu parler de la distinction entre humain et non-humain, j'ai trouvé ça très innovant et très intéressant. Ça me fascinait beaucoup, hein. Mais en travaillant plus spécifiquement sur mon terrain de recherche avec les casse-soie, je me suis rendu compte que c'était une distinction assez limitante. Et en y réfléchissant un peu plus, lorsqu'on parle de non-humain, on essaye de qualifier ce qui est autre que l'humain. Mais alors, ça pose aussi la question de ce qu'on entend par humain. Cette notion d'humanité, elle n'est pas forcément présente partout où on travaille. En tout cas, elle ne l'est pas du tout chez les casse-soie. Et elle ne l'est pas dans beaucoup d'autres parcelles du monde. Et c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de difficultés en réalité à essayer de qualifier ces relations-là interspécifiques. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter sur la notion d'existant, que ce soit des animaux, des végétaux, mais aussi des esprits. Ça nous permet aussi d'inclure des pierres, des rochers ou même des écosystèmes. Et en ce sens, du coup, parler en termes d'humanité serait peut-être leur plaquer une conception qui ne leur appartient pas.
On va parler de cette question de la distance géographique au terrain, car Marion, tu conduis ton terrain en Suisse, tandis que toi, Cédric, tu as fait ton terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Marion, pourquoi avoir fait le choix d'un terrain aussi proche ?
C'est assez intéressant cette question-là, parce que, comme je le disais juste avant, toute cette question de la crise écologique, de voir en fait un peu comme à quel point dans nos sociétés que moi j'appelle modernes, on est très déconnecté de tout ce qu'on discutait juste avant. Et justement, moi j'avais envie, par le biais de l'anthropologie, j'avais envie de comprendre la société dans laquelle nous on a grandi. Cédric, c'était intéressant, tu parlais justement du fait qu'on était déconnecté de nos territoires. Et c'est vraiment des questionnements que je trouve un peu fondamentaux. Aujourd'hui, dans une société moderne, en proie à une diversité de crises, qu'elles soient écologiques, sociales, politiques, j'avais vraiment envie de comprendre notre société pour essayer de comprendre si des changements sont possibles, si on pouvait faire quelque chose, en fait. Et je pense que ça, c'est complètement relié à mon activisme écologiste, même si je l'ai un peu mis de côté ces dernières années pour me concentrer sur l'anthropologie. Je pense que j'ai quand même envie de considérer l'anthropologie comme un peu une science sociale qui peut permettre de produire certains changements ou juste de les accompagner et de diffuser un peu ce qui se fait déjà dans notre modernité, quoi.
Cédric, tu as fait ton terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quelles ont été les conséquences de cette distance sur ta stratégie d'enquête et sur ton terrain ?
Alors, le fait est qu'aller travailler à plus de 14 000 km de chez soi en forêt tropicale implique de grandes contraintes d'ordre logistique, financière et, si j'ose dire, aussi relationnel. J'ai été chez les casse-soie pendant 2 mois en 2019 dans le cadre de mon mémoire, puis pendant 14 mois dans le cadre de ma thèse doctorale. Et du fait de toutes ces contraintes, on ne peut pas juste faire des allées-venues aussi facilement, contrairement éventuellement à des chercheurs et chercheuses australiens et australiennes, pour qui c'est beaucoup plus facile. Malgré tout, travailler au fin fond de la forêt tropicale, dans les basses terres, où pour le coup, il n'y a pas forcément de réseau téléphonique, il n'y a pas beaucoup de routes, c'est vraiment pas perdu dans la forêt, mais presque. Ça implique que dans mon cas, j'ai dû rester très longtemps, en une fois, en immersion, avec les gens sur le terrain. Et donc, en termes de stratégie d'enquête, ça implique un travail préparatoire très conséquent. En ce qui me concerne, j'avais attendu l'équivalent de 7 mois avant de pouvoir avoir accès à mon visa de recherche seulement. Et donc, pendant ces 7 mois, on fait beaucoup de choses. Mais pour un voyage de cet ordre, eh bien, on doit préparer une pharmacie. Dans mon cas, c'était non seulement une pharmacie complète pour moi et une autre pharmacie aussi pour les casse-soie avec qui je travaillais, qui donc, eux, n'ont pas forcément accès à des soins de santé de différentes sortes. De plus, il faut préparer, évidemment, tout son matériel. Il faut préparer, dans mon cas, j'avais voulu aussi venir avec du matériel audiovisuel, avec un téléphone satellite. J'étais marié, je le suis toujours. Et donc, ma femme ne m'a pas accompagné sur le terrain. Donc, les contraintes aussi à ce niveau a été d'essayer de maintenir un lien avec la Belgique, tout en restant, malgré tout, en immersion sur le terrain et focalisé sur ma recherche. Et ça, c'est vrai que les contraintes sont très différentes. Je ne dirais pas qu'elles sont forcément plus dures, on va dire, que des terrains plus proches. Elles sont simplement d'un autre ordre. Mais en tout cas, ça implique qu'on a moins de flexibilité, je crois, dans la manière dont on veut travailler avec les gens. Et je pense que c'est donc beaucoup mieux de travailler en collaboration avec les personnes avec qui on est sur le terrain. Des personnes qui connaissent beaucoup mieux leur territoire que nous.
Comment est-ce que tu as composé avec ta position de chercheur blanc, belge, qui part sur un terrain lointain ? Tu nous parlais de dette anthropologique.
Oui, absolument. Et ça, c'est une problématique qui m'habite depuis le début, notamment déjà avec ma directrice de thèse, Véronique Servet, qui, elle, fait des terrains beaucoup plus proches. La plupart de ses étudiantes travaillent aux proches. Et je crois pouvoir dire qu'elle ne voit pas forcément d'un très bon œil des terrains aussi lointains dans la mesure où la dimension postcoloniale la dérange beaucoup. Je la comprends, elle a tout à fait raison. Et c'est en ce sens que, en ce qui me concerne, il faut bien évidemment que je sois capable du mieux possible justifier et légitimer ma place. Moi, homme de 30 ans, belge blanc, qui vient travailler dans un contexte fortement marqué en termes postcolonial. D'autant plus que les Cassois ont été sujets à une forme de christianisation et de missionnarisation assez poussée. Et donc, mes moindres faits et gestes étaient normés. Ce qui fait que je devais impérativement surveiller mes gestes et surveiller ce que je dis, comment je me comporte avec elle. David Graeber, lui, parlerait sans doute en termes de dettes primordiales, à savoir ces dettes qui sont impayables, quelque part. Elles sont beaucoup trop grandes pour être surmontées et surmontables. Les Cassois reconnaissent une dette du même ordre, je crois, vis-à-vis des sous-sous, les esprits de la fertilité, ceux qui sont donc responsables de la fertilité au sein de la forêt, de leur fertilité à eux aussi, en tant qu'êtres procréateurs. Et donc, ce sont des êtres envers qui on ne pourra jamais éponger notre dette. Et j'ai l'impression que ce qu'ils m'ont légué relève de cette dette-là.
L'anthropologie, elle a quand même des racines coloniales et je pense qu'on fait beaucoup la distinction entre terrain proche et terrain lointain. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, cette distinction-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui l'effritent et qui n'est plus pertinent à réfléchir entre ces termes. Parce que je trouve qu'au niveau méthodologique, Cédric parlait beaucoup d'immersion sur le terrain, de faire attention aux normes de notre culture d'origine et qu'on importe en fait avec les personnes avec lesquelles on va travailler. Et en fait, tout ça, entre proche et lointain, c'est la même chose. Parfois, il y a des barrières culturelles, des barrières langagières dans les terrains proches autant que dans les terrains lointains. Moi, j'avais travaillé justement sur mes premiers terrains en anthropologie parce que c'est comme ça qu'on nous l'enseigne, l'intéressant est dans le lointain. Et mes premiers terrains ont été loin. Le premier, c'était au Costa Rica, justement, en Amérique centrale. Et en fait, en retournant dans ma culture d'origine en France, je me disais, mais pourquoi, en fait, on s'entête à étudier ce qu'il y a loin pour le ramener chez nous, sans forcément être utile sur place, être utile d'une mesure assez, assez questionnable dans la société à laquelle on appartient de base, quoi. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai un peu changé de corde à mon arc en me disant, non, j'ai envie de faire une transformation sociétale, enfin, de participer à ça sur place, directement. Et je trouve que par rapport à ça, les terrains lointains nous alimentent aussi énormément. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas noir ou blanc. Je pense que les deux s'auto-alimentent, les deux sont capables de s'enrichir et que la distinction, elle est plus vraiment pertinente.
Marion, est-ce que tu peux nous décrire cette immersion que tu as fait pendant un an sur ton terrain très concrètement ? Parce que tu n'es pas restée pendant un an en continu sur le terrain. Comment est-ce que ça s'est déroulé ?
Alors justement, si, je me suis immergée pendant un an sur le terrain, mais c'était assez particulier comme négociation. Moi, j'aime pas parler de négociation, c'est pas du tout comme ça qu'on l'a monté avec l'équipe, mais je parlerai plutôt de partenariat avec LE. Et on s'est rencontrés un peu, je veux pas dire par hasard, mais moi je cherchais des écoles en forêt. Justement, j'ai monté un projet de thèse en me disant que je voulais travailler sur l'éducation, sur l'enfance et sur les relations interspécifiques entre les enfants et d'autres espèces. Pour ça, j'avais un projet. En fait, moi, je cherchais justement des aires éducatives ou des centres éducatifs où il y avait cette question de la nature qui était prise en main, quoi. J'ai d'abord essayé de trouver ces écoles-là. Et en France, fermer toutes les unes après les autres pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, enfin, c'était très compliqué. Et en Suisse, on s'est trouvé comme ça avec l'école du Cerfeuillu, du coup, qui est une école à Genève, qui est située à Jussy. Donc, c'est une école en forêt qui se passe exclusivement dehors. Il y a deux classes, ça va du 1P au 5P, et ce qui est l'équivalent de 3 à 10 ans. Et il y a une trentaine d'enfants et dans l'équipe pédagogique, ils sont une dizaine qui tournent. Donc moi, comment j'ai rencontré Sandrine? J'ai tout simplement envoyé un email. Sandrine, c'est la directrice de l'école en forêt. Et en leur disant, bah voilà, j'ai ce projet-là. Est-ce que vous serez d'accord pour me rencontrer? Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une école qui est associative et privée. Ils sont débordés. Et en fait, ils ont eu le temps de lire ce message-là. Ils m'ont dit, on se rencontre. Et moi, je suis allée sur place. On s'est rencontrés. Je leur ai expliqué le projet. Je leur ai demandé comment je pouvais m'intégrer, quelle place je pouvais avoir en fonction de mes besoins à moi. Et on a essayé de trouver un terrain d'entente en fonction de leurs besoins, de mes besoins. Parce que avoir des bras en plus pour eux, c'est pertinent. Et pour moi, justement, faire des captations, les suivre, les observer, c'était super, quoi. Et je serais extrêmement reconnaissante de leur accueil. C'est vraiment chouette.
Oh, ça sonne.
Bah justement.
Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence d'une école en forêt par rapport à une école lambda ?
Alors, une école en forêt, en fait, ça vient du mouvement qui s'appelle Forest School. C'est un mouvement qui vient de la pédagogie des Nordiques. Ça se veut assez homogène, mais pourtant, aucune école que j'ai pu rencontrer s'adapte au territoire de la même manière. Donc, l'école en forêt du Cerfeuillu, c'est vraiment une école qui est dehors, à la forêt. On a deux classes, donc on a des bios, on a des pupitres, des arbres. Il y a un petit cabanon justement pour protéger les affaires du froid, du vent, de la pluie. Et chaque classe a son couverte de bâches. Donc comme ça, ça permet aux enfants de rester à peu près secs quand il pleut ou quand il neige. Et voilà, donc les enfants, ils prennent le bus tous les matins pour arriver jusqu'à la forêt parce qu'ils partent tous de Genève. Donc c'est un milieu complètement urbanisé. Et vraiment, c'est cette idée de s'insérer vraiment dans un écosystème complètement forestier, quoi.
Cédric, comment est-ce que tu as négocié ton arrivée auprès des Cassois ?
Pour le coup, on peut effectivement en parler en termes de négociation, dans mon cas. Ce qui est particulier, c'est que pour moi, la négociation, elle a commencé un peu plus tôt et précisément, avant tout, auprès de Florence Bruno-Passina, étant donné que de base, ma directrice, c'était Véronique Servet, qui m'a fait lire, du coup, l'ouvrage de Florence Brunois. Et donc, ça m'a donné vraiment fortement envie d'aller travailler chez eux et nulle part ailleurs. Et donc, j'ai dû aller voir Florence Brunois, assister à ses cours, essayer de lui montrer que j'étais vraiment motivé et que j'étais quelqu'un de sérieux. Et ça n'a pas été facile. Ça a pris un an. Et finalement, elle a accepté de me laisser venir sur le terrain dans le cadre de mon mémoire pendant 2 mois. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai rapidement compris que négociation, il y a aussi eu, mais en mon absence du coup, entre elle et les Cassois, notamment les leaders locaux. Et j'ai appris plus tard qu'en réalité, elle m'avait présenté à la communauté comme étant son fils, en quelque sorte. Et donc, elle leur a demandé aussi de veiller sur moi, d'assurer ma sécurité, etc. Et donc, dès le départ, le lien est très bien passé. Ils m'ont appris le talk piscine et ils m'ont accompagné tout du long. Mais surtout, ils se sont saisis de ma recherche dès le départ. C'est-à-dire que les leaders locaux, et notamment pour des raisons de sorcellerie, à savoir un sorcier serré en cassois, ça fait référence à ce qu'on pourrait nous qualifier de non-humain. Donc c'est une personne qui ressemble à vous et moi, qui a une chair humaine, mais qui, dans sa nature profonde, est un cannibale spirituel. Et c'est plus fort que lui de se nourrir des âmes des uns et des autres. Et la sorcellerie est entamée à partir du moment où quelqu'un dit du mal d'une autre personne. Commence donc par la médisance. Donc, dans une communauté de cet ordre, dans une écologie relationnelle de cet ordre, on essaye de prévenir tant que possible de la jalousie des uns et des autres. Donc, les leaders claniques, dès le départ, ont décidé que, pendant tout le long de mon séjour, j'allais passer autant de temps dans chaque territoire clanique, histoire de s'assurer que chacun puisse se saisir de moi et de ma recherche et qu'il n'y ait pas de jaloux. Cette façon de fonctionner, elle a notamment contribué à m'aider moi à identifier ma propre problématique et à reformuler mon propre projet de recherche. Donc dès le départ, je voulais de toute façon travailler sur les rêves en forêt. Mais le fait de pouvoir passer 2 à 3 semaines dans chaque territoire clanique et de pouvoir entretenir une relation avec à peu près chaque habitant et habitante qu'elle soit, eh bien, ça m'a permis de comprendre que les écologies oniriques étaient très différentes d'un clan à l'autre. Et ça, c'est quelque part les Cassois qui m'ont non seulement offert une expérience de vie incroyable, des matériaux ethnographiques extraordinaires, mais aussi ma propre question de recherche, en fait.
Vous utilisez tous deux des captations vidéo, des photos, des enregistrements sonores pendant vos terrains. Marion, est-ce lié au fait de travailler auprès d'enfants ? Quelles sont les particularités méthodologiques de ce type de travail, notamment lorsque tu essaies de saisir leurs interactions avec les autres qu'humains ?
Alors, moi, j'avais jamais travaillé avec des captations vidéo ou sonores avant de travailler avec l'école en forêt. Et c'était surtout que mon premier objet anthropologique, en tout cas, de travail avec l'école en forêt, c'était de travailler sur l'empathie interspécifique. Et moi, de base, je voulais voir comment les enfants, ils étaient capables ou pas de développer des compétences empathiques envers d'autres espèces. C'est d'ailleurs sur ça qu'avec Sandrine, on s'est très, très bien entendu, parce que c'est des questions qui intéressent l'équipe de l'école en forêt. Et vis-à-vis de ça, je me disais, comment on peut repérer en fait et observer l'empathie, vu que c'est un sentiment qui est soi-disant interne, qui se passe dans la rencontre avec une autre altérité. Et du coup, moi, je me suis dit, OK, première tentative, on va essayer de filmer, parce que j'ai toujours été assez phénoménologique dans mon travail. Et je me méfie beaucoup du discours. Surtout quand on parle de rencontres interspécifiques, il y a beaucoup de choses qui sont interprétables, interprétées. Par exemple, moi, je dis quelque chose aujourd'hui, sûrement demain, je serai capable de dire l'inverse. Et je trouve que d'un point de vue anthropologique, c'est important de garder ça en tête, que le langage, il est modulable, quoi. En fonction des contextes, en fonction des environnements, en fonction des personnes. Donc, en tout cas, la vidéo, moi, ça m'a permis de prêter une attention au corps, notamment dans la rencontre interspécifique, où ça me permet d'observer vraiment très finement comment l'humain il se positionne quand il rencontre une autre espèce et qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont lisibles sur leur visage? Est-ce qu'il lève le bras? Est-ce qu'il touche? Est-ce que... Enfin voilà, tout ça. Après, il y avait d'autres questions par rapport aux vidéos. C'était sur les enjeux éthiques. Est-ce que c'est OK de prendre en vidéo des enfants? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que les enfants sont capables de donner leur avis, en fait, par rapport à la caméra. Donc ça, ça a été un peu un enjeu au début, avant que je sois sur le terrain. C'est des choses qu'on a discutées avec l'équipe et qu'on a proposées aux parents. Donc, on a eu l'accord parental sur les captations vidéo. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant parce que... Enfin, les enfants aussi, ils ont le droit aussi de donner leurs opinions. Et au début, j'avais essayé de ramener une caméra. C'était vraiment un petit objet, quoi. Et j'avais demandé aux enfants, est-ce que vous êtes d'accord ? Et en fait, à cet âge-là, entre 3 et 10 ans... Le non est assez... Enfin, ils n'osent pas forcément. Il y a une adulte, même si je suis toute petite, ça reste... Enfin, on a quand même un pouvoir assez... On peut avoir de l'autorité quoi, sur les enfants. Et du coup, j'essayais vraiment de prendre la température, comment ils se sentent. Et clairement, la caméra, ça ne marchait pas, quoi. On m'avait proposé aussi de mettre un gilet avec une GoPro qui peut s'accrocher au niveau du torse. Je suis petite, donc je fais 1m52. Et en fait, en mettant une GoPro au niveau de mon torse, je suis pile poil à la hauteur des yeux des enfants. Impossible de durer comme ça. Enfin, j'avais pas envie de leur imposer ce médium-là. Et du coup, le truc que j'ai trouvé comme un peu solution bis, c'est l'usage du téléphone. Et ça, c'était beaucoup plus pratique parce qu'en fait, tous les adultes, ils ont un téléphone. Donc l'enfant, il est habitué à ce médium-là. Et du coup, ça me permettait de filmer à des moments où c'était opportun et puis d'enregistrer surtout. Et en fait, je me suis assez rendu compte assez vite que les enregistrements, c'était beaucoup plus discret et moins pris en compte par les enfants. Parce qu'ils étaient plus focalisés sur mon carnet terrain. Donc le carnet terrain, c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé quotidiennement pour décrire. Donc ça, les enfants, ils le remarquaient. Enfin, ils me le prenaient, ils dessinaient. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'ai imposé, mais qui a été repris par eux. Mais le téléphone, c'était vraiment... Enfin, ils étaient habitués à ça, quoi. Donc c'était beaucoup plus facile.
On va écouter une captation sonore que tu as prise sur ton terrain, une rencontre avec un frelon.
Il est mal frelon, je crois. Il ne fait pas trop de mal. La terre qui sort, vite! Il faut retrouver le trésor avant que tout sorte!
On a trouvé un autre la semaine passée.
Je l'ai même
là-bas.
Pas vu sortir. Il est sorti d'où?
Je sais pas d'où il est sorti. Je pense qu'il était là dans un trou peut-être. Tu vois, en faisant ça, tu risques d'en réveiller d'autres aussi. Donc on
mais
va lui laisser un peu de place.
On vient de la nature, nous aussi!
Là, c'est le frelon qui vient de chez nous, c'est le frelon européen. Et lui, il est protégé. C'est interdit de leur faire du mal. Parce qu'il y a les autres frelons qui viennent d'Asie, qui prennent leur place et qui mangent tout
Chine.
À leur place. Comme les coccinelles, par exemple.
Est-ce que tu peux nous en dire un mot, toi, qui peut-être te méfie du discours et du langage ?
Oui, alors justement, dans cet extrait-là, là, on entend un enfant qui parle justement en disant « Mais nous aussi, on est la nature. » Et je me rappelle qu'il était perturbé par le pédagogue qui disait quelque chose comme quoi on devait s'éloigner un peu du frelon. Parce qu'il faisait partie de la nature. Et du coup, l'enfant, il a réagi en disant « Mais ça me paraît... » Enfin, en tout cas, il ne comprenait pas. Il y avait une espèce de dissonance. Et en fait, c'est interprétable. Si moi, je mets mes lunettes d'anthropologue, un peu un œil naïf, je peux dire « Ah bah vraiment, il s'intègre quoi, dans la nature. » Et du coup, ça pose toutes ces questions de comment il se place, en fait, quand il dit ça à l'enfant. Et honnêtement, c'est assez difficile à dire. J'arriverai pas à enlever toutes mes valeurs, mes normes à moi-même, qui sont mes lunettes, en fait. Et cet enfant-là, il sera capable de dire ça à ce moment-là. Et puis après, ça ne l'empêchera pas de vouloir toucher, de vouloir tuer, de vouloir manipuler d'autres espèces vivantes. C'est assez difficile d'en donner une analyse objective, quoi.
Cédric, de ton côté, tu étudies les rêves des cassois par le biais d'observations, d'entretiens et notamment de matériaux vidéo et de prises sonores. Peux-tu nous rappeler en deux mots pourquoi tu t'intéresses aux rêves et comment travaille-t-on sur les pratiques oniriques à partir de ces matériaux ?
Alors, ce qui m'a vraiment amené et animé dans la poursuite de cette question de recherche autour des rêves en forêt tropicale, c'est lié à cette co-directrice de recherche, donc Florence Brunois. Je pense pouvoir dire aisément que ma recherche est une conséquence directe de la sienne. Et c'est en lisant son ouvrage, dans lequel, notamment, elle qualifie le rêve comme étant le paradigme cosmologique auprès des cassois, c'est-à-dire la pierre angulaire autour de laquelle on peut effectivement saisir la logique relationnelle auprès des cassois, qui est en soi ambivalente, dans le sens où, en termes d'ontologie, donc en termes d'identification et de discours sur la nature des êtres, eh bien, on peut être une chose ou une autre, en quelque sorte. Moi, humain, je peux être chasseur, mais je peux aussi être chassé en rêve. Donc, en rêve, je vais me rêver sous une forme animale. Et les humains, dans les rêves qui vont me chasser, sont des esprits de la forêt, qui vont me chasser parce que, dans la vie éveillée, j'ai chassé le mauvais animal, ou alors j'ai coupé un arbre qui, en réalité, s'avérait être une maison demeure d'esprits de la forêt. Il s'est laissé. Et donc, de ce fait, étudier les rêves pour ce qu'ils étaient, le matériau onirique proprement dit, ça m'apparaissait comme étant une porte d'accès, une fenêtre sur la logique interrelationnelle des cassois, sur leur écologie relationnelle. Et donc, évidemment, l'une des premières contraintes de ce type de recherche, c'est comment restituer une expérience à laquelle on n'a pas accès, les rêves des autres. Et dans ce sens, je me suis beaucoup inspiré des travaux d'un autre anthropologue qui s'appelle Stephen Feld, un ethnomusicologue américain, et il m'a beaucoup conseillé, notamment dans le choix de l'identification des micros que je comptais amener avec moi, dans la mesure où, pour moi, capturer les sons dans la forêt était avant tout la possibilité, peut-être pour moi, de davantage saisir ce qui nourrit, pour le coup, ces rêves. Et on les analysait ensemble, autour de ce que j'appelle des entretiens oniriques, mais en somme, on peut appeler ça des entretiens de rêves, de récits de rêves. Des entretiens durant lesquels je les interroge sur ce qu'ils ont fait 5 jours avant, comment ils se sont sentis quand ils se sont réveillés, de me raconter leurs rêves et en toc-piscine, donc le pidgin qui est parlé dans tout le pays, et en cassois, en langue vernaculaire. Et force était de constater qu'au bout d'un échantillon d'à peu près 300 rêves, eh bien, je me suis rendu compte qu'on pourrait tout à fait réaliser une monographie sur chaque aspect de la vie sociale et culturelle des cassois, juste en partant de leurs rêves. Alors, j'ai aussi mobilisé une GoPro et cette fois-ci, c'était pas tant pour faire des vidéos pour moi, mais plutôt comme une manière de m'engager sur le terrain et avec les cassois. Car très souvent, que ce soit la GoPro ou les micros, j'essayais aussi de les partager en fait avec les cassois et de les faire utiliser ces matériaux pour justement essayer d'apprendre à voir et écouter comme eux et potentiellement ensuite à rêver comme eux.
On écoute une lecture de ton carnet de terrain.
Aujourd'hui, la pluie domine les sons extérieurs. Mais dès qu'elle s'arrête, ce sont les chants d'oiseaux, le cri incessant des criquets et les plaintes lointaines d'animaux en tout genre qui manifestent d'une exubérance presque plus prononcée que la journée. Ici, à Unumu, on entend moins de signes de sorciers caractérisés par des chants nocturnes de martin-pêcheur, saquiers en cassois, ou des sons soudains et inhabituels, non indiciels, tels que des bisous serrés dans l'air. Hier, des invités improbables peuvent aussi faire leur apparition. Je n'ai pas encore vu ni entendu de rat, tobonné en cassua. Kéraillé, quant à lui, a détecté un jeune cochon sauvage, Icalo, en cassoua, sous la maison. Il a essayé de le tirer, mais il l'a manqué, le laissant partir vagabonder dans la forêt, sous un orage tropical vrombissant par-delà montagnes et vallées karstiques. Parfois, les coups de tonnerre éclatent juste au-dessus de nos têtes, ce qui a l'art de me surprendre au hurlement. Selon moi, toutes ces descriptions de nos vies nocturnes, bien loin d'être exhaustives, soulignent des éléments qui vont dans le sens de l'ethno-éthologie, bien que cela tombe sous le sens. Les cassois ne font pas que rêver de multiples existants, humains ou autres, ils rêvent avec eux.
Comment travailles-tu à partir de ces notes ?
Alors, cet extrait, il est un peu particulier parce que mon carnet de terrain, dans son ensemble, est beaucoup plus éparse, hein, pas aussi linéaire, on va dire. Et la fois où j'ai écrit ça, il était 3h du matin et il faut savoir que ce n'est pas forcément facile de dormir dans la forêt, notamment dans les conditions dans lesquelles on vivait. Et ça a été notamment difficile en termes de douleurs musculaires qui faisaient que je pouvais me réveiller assez régulièrement. C'était la saison des pluies, mais cette saison des pluies, du fait notamment du changement climatique, avec un Niño et un Niña qui se sont suivis l'un puis l'autre, qui fait que la pluie n'en finissait pas, ben ça a fait que mes nuits et les leurs donnaient lieu à un sommeil assez intermittent. Et là, je me suis rappelé d'une lecture que j'avais faite, notamment sur le terrain, de « Les Lances du crépuscule » de Philippe Descola, dans lequel lui-même fait l'hypothèse que cette intermittence pourrait avoir un lien avec cette vie onirique animée que l'on pourrait avoir, et aussi cette attention exacerbée qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'elle. Et quand je m'étais réveillé ce jour-là, je m'étais effectivement rendu compte que la nuit, nos rêves sont très agités, car la nuit elle-même est très agitée, et que quelque part, effectivement, toutes ces voix, donc ce que Stephen Feld qualifie en termes de voix pour parler des sons de la forêt, toutes ces voix de la forêt, quelque part, donnent lieu aussi à ces rêves que nous avons. Et donc, lorsque je dis que les cassois informent leur quotidien à partir de leurs rêves, et informent même leurs décisions, socialisent leurs rêves, et vont même les mobiliser dans un contexte peut-être plus politique, dans des assemblées, etc., eh bien, quelque part, j'ai l'impression que c'est intégrer également toutes ces voix dans leurs décisions, de telle sorte que ça mènerait à des décisions qui se voudraient plus inclusives et qui, me semble-t-il, laissent de la place à tous ces existants.
La forêt est centrale dans vos recherches respectives. Quel est son statut à la fois pour vous en tant que chercheur, chercheuse et pour les personnes auprès desquelles vous enquêtez ? Peut-être Marion pour commencer.
Alors pour moi, la forêt, elle me poursuit. J'ai toujours été très sensible aux végétaux et mes trois terrains, et je mets l'école en forêt dedans, ont toujours concerné la forêt. Pour moi, en fait, aujourd'hui, la forêt, c'est quand même... J'arriverai pas à la décrire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle a pris une place tellement prégnante dans ma vie personnelle que je crois que s'il n'y avait pas la forêt, ce serait vraiment autre chose. Enfin, je serais vraiment quelqu'un d'autre. Mais sinon, par rapport aux enfants, la forêt, c'est difficile d'en délimiter les contours, mais parce qu'elle est tellement de choses, enfin, de ce que j'en vois, et j'aurais peur de mal interpréter comment ils la vivent, mais en tout cas, c'est leur école, c'est leur lieu d'habiter, en tout cas au quotidien, au-delà de leur famille et des milieux urbains dans lesquels ils dorment. Ça fait assez partie d'eux. Quand j'ai travaillé avec eux là, pendant la récolte de données, en fait, les enfants, ils avaient chacun un arbre ami. Donc quand ils arrivent à l'école, ils ont un arbre leur est attitré. En fait, il y a un espace qui n'est plus accessible aujourd'hui, mais il y avait un espace où c'était le lieu des arbres amis, où chaque enfant, il pouvait choisir leur arbre auprès duquel ils pouvaient se recueillir, auprès duquel ils pouvaient faire des câlins, parler. Et en fait, ils mettaient une médaille avec leur prénom. Et en fait, c'est pas anodin pour eux. C'était l'année passée où, justement, au moment de quitter l'école, il y a un rituel autour de ça où l'enfant il doit dire au revoir à son arbre ami. Et c'est un symbolique. Ça représente dire au revoir à l'école en forêt, à passer dans une autre structure scolaire. Enfin, c'est vraiment... C'est très émotionnel, c'est très ancré et c'est presque... Ouais, ça les prend vraiment au trip. Le dernier jour de l'école, c'est assez... C'est difficile, quoi. C'est assez vécu comme un deuil pour certains des enfants. Et du coup, ouais, pour la forêt, je dirais que c'est vraiment un lieu assez mystique, mythique. C'est très dur, en tout cas, à la définir par une phrase, quoi. Elle est très, très polysémique, polyforme. Elle est multiple, quoi.
Cédric, j'ai l'impression que tu partages ce regard.
Oui, j'ai beaucoup aimé l'expression qu'a mobilisée ici Marion quand tu dis que la forêt nous poursuit. Je partage tout à fait cette vision des choses. En ce qui me concerne, la forêt des Cassois, c'est une forêt qui me poursuit et qui, quelque part aussi, s'est inscrite dans ma chair, dans la mesure où c'est un milieu qu'on pourrait peut-être qualifier de assez hostile, dans la mesure où ces forêts, elles ne sont pas modulées par les intentions humaines avant tout. Elles le sont dans une certaine mesure. Les Cassois, par ailleurs, n'ont pas de mot pour la forêt. Le terme qu'ils emploient pour cela, c'est « moa », qui veut dire « la base lointaine », ce qui peut se traduire comme étant l'endroit où la présence humaine est la moins visible. Pas absente, mais la moins visible. Et par ailleurs, si on veut vraiment saisir la logique sous-jacente selon laquelle eux vont négocier leur place au sein de cette forêt, je crois qu'on peut la résumer en parlant de laisser de la place aux autres et laisser la possibilité aux autres d'être et de se déployer, de se développer. Ça veut donc dire que quand un arbre tombe dans la forêt, sur un sentier humain, on ne va pas le couper, on va le contourner et on va créer un autre sentier. Et donc, la forêt devient ce qu'elle est, c'est-à-dire mosaïque. Elle bouge en permanence. Et dans le cas des cassoas, ce qui est important à retenir, effectivement, c'est que les cassoas ne vivent pas à la lisière de la forêt. Ils vivent dans ce qu'on pourra appeler l'océan vert. Les villages ou les campements où ils vont résider de manière plus ou moins épisodique sont des trouées au sein de cette immensité de vert. Et donc, cette forêt-là, qui s'est inscrite dans leur chair, qui s'est inscrite dans ma chair, c'est avant tout le milieu au sein duquel j'ai moi-même, certes, pu développer des attachements avec eux, avec les animaux qui l'habitent, avec les esprits qui l'habitent, mais c'est aussi un milieu qui m'a appris, en quelque sorte, à être d'autant plus présent et d'autant plus en présence. Déjà, parler de la forêt, c'est quelque part faire violence aux forêts, parce qu'il n'y a pas la forêt, il y a des forêts. Les cassoas eux-mêmes, par ailleurs, reconnaissent plusieurs termes spécifiques à des écosystèmes, spécifiques à des régions au sein de la forêt. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la manière dont on peut faire forêt, en quelque sorte. C'est essayer de vivre dans la prolifération des possibles. Et me semble-t-il, c'est ce que les forêts nous permettent. Et valoriser les forêts, à mon sens, c'est laisser la possibilité d'être de diverses façons.
On ne va pas couper un arbre, on va tracer un autre chemin. Dans quelle mesure vos travaux vous paraissent utiles pour penser la crise écologique actuelle ?
Alors, moi, c'est une question que je trouve très importante, très intéressante. En général, c'est l'une des premières questions qu'on me pose quand je parle de ma recherche autour de moi. Très poliment, les gens vont me dire que ma recherche leur paraît très passionnante et intéressante. Me vient ensuite la question du « so what ?», c'est-à-dire « ok, pourquoi partir à l'autre bout du monde pour étudier les rêves de personnes qui vivent dans la forêt, même pas près de chez nous ?» Je crois que ça reflète peut-être un malentendu qu'on peut avoir des personnes qui vivent en forêt tropicale et qui vivent en forêt et de la forêt. Et ce malentendu, d'après moi, c'est que pour trop de gens, vivre en forêt n'implique pas forcément d'avoir en fait une vie onirique animée et de s'en inspirer. Or, moi, le postulat de ma recherche, c'est de dire que je n'ai pas connaissance de quelque population forestière qui soit, qui ne donne pas une place plus ou moins conséquente à leur vie onirique, notamment pour influencer leurs décisions du quotidien. Et donc, quelque part, je crois qu'on pourrait considérer leurs pratiques oniriques comme des pratiques écologiques en soi, nécessaires pour faire société au sein de la forêt d'une manière qui se veut plus ou moins harmonieuse. Je pense notamment à tous ces acteurs du développement et de la coopération qui essayent de mettre en place des projets de conservation avec les populations autochtones, avec des bonnes intentions, mais qui, d'après moi, ont peut-être des biais qui relèvent précisément de la vision que ces personnes peuvent avoir du fait de vivre en forêt. Et donc, pour moi, ce serait une victoire si ces acteurs et ces actrices pouvaient prendre beaucoup plus souvent conscience de l'importance des expériences intimes et incarnées que les gens qui vivent en forêt peuvent avoir et de la place que cela a dans la manière dont ces personnes vivent en forêt. Et par ailleurs, et là je sors peut-être du cadre de ma recherche de thèse, mais je crois que dans le contexte du changement climatique, si nous tenions un peu plus souvent compte de nos rêves, non pas juste comme des miroirs de nos vies passées, mais comme des fenêtres sur le présent, et si on tentait à socialiser davantage nos expériences oniriques, les unes avec les autres, eh bien peut-être arriverions-nous à saisir des modes de vie un peu plus humbles vis-à-vis de soi et des autres, et peut-être plus tolérants.
Marion, quant à toi, comment est-ce que tu penses tes travaux par rapport à ces questions de crise écologique, de crise environnementale ?
Alors, j'ai beaucoup aimé l'expression que tu utilisais, justement, Cédric, sur la question de faire monde, en fait, avec la forêt. Et je trouve que c'est exactement ce qu'ils font à l'école en forêt. Ils ont réussi à construire tout un système et à inventer un système qui, justement, ancre l'humain dans la forêt, au sein de la forêt et avec. Donc, ce qui change un peu tous les cadres qu'on connaît de l'intégration de la nature ou de la désintégration de la nature dans nos sociétés modernes. Et moi, je trouve que, justement, c'est là où j'ai un peu envie de construire d'autres récits grâce à eux, Parce qu'ils portent aussi ça, leur enjeu, les politiques, ils portent aussi ça de en fait mettre en place un changement qu'ils veulent voir advenir dans le futur. Mon enquête a résisté un peu là-dessus. Je trouve que c'est pas tant moi qui va changer les choses, mais c'est vraiment de donner la parole et puis de transmettre un peu le récit qu'ils créent à d'autres sphères, que ce soit ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit dans l'académie. Et c'est vraiment donner à voir les mondes qu'on a envie de voir advenir dans notre société.
Merci beaucoup Marion Picard et Cédric Audouan de nous avoir accompagnés dans cet épisode. À travers vos terrains, vous nous avez permis de mieux comprendre ce que recouvrent ces relations dites interspécifiques, des liens quotidiens, sensibles, situés entre humains et autres qu'humains. Vos recherches montrent, chacune à leur manière, que la forêt n'est pas un simple décor, elle est un milieu de vie, un espace de relations, un cadre structurant des apprentissages, des rêves et des manières de faire société. Et elles ouvrent des pistes pour penser autrement notre rapport au vivant à l'heure des crises écologiques. Je suis Mathilde Tonfourcade et ce podcast, produit par Nouria Research, a été préparé par Cécile Jean-Mougin, Camille Abesca et Claire Leforieux. À la réalisation, Tante Agatha de Parole Parole. À bientôt.